rappeler les joies, tout comme les douleurs. Oui, ça fait partie des bénédictions que le Seigneur a pour nous. C'est pour cela que je l'ai traduit en reconnaissance ce matin. Je voudrais que nous regardions ensemble dans un texte de 1 Pierre chapitre 2. Peut-être nous allons nous tenir debout pour faire cette lecture à partir du verset 4 au verset 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. » Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur par son esprit continue cette œuvre d'affermissement de l'Église. Nous avons déjà entendu pas mal de choses ce matin concernant l'Église dans sa dimension de communion fraternelle. Mais ce matin aussi, nous allons voir dans cette continuité l'Église, non seulement dans sa nature, mais aussi dans son service. Je voudrais parler de deux choses ce matin au travers de ce texte. D'abord, le sujet que, en tout cas, ce dont j'ai intitulé ce passage, c'est Christ, la pierre vivante. Nous sommes encouragés, exhortés continuellement à nous approcher de lui. Donc, nous avons aussi entendu cela ce matin au travers de la parole, parce que c'est là que la rencontre se fait, n'est-ce pas, avec Christ et son Église. Donc, que le Seigneur vraiment nous donne de tenir, n'est-ce pas, cette proposition dans notre cœur, de continuellement nous approcher de lui. Ici, dans ce texte, en le lisant, nous voyons deux opportunités qu'il nous offre ce matin. Une première, c'est d'offrir des victimes spirituelles. Et une seconde, c'est d'annoncer les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous ferons vraiment avec ce petit schéma ou cette petite structure et évoluer dans ce texte en rappelant et quand même que l'apôtre Pierre est quelqu'un à qui le Seigneur a mis ce fardeau d'affermir les églises, de les encourager. Et c'est ce qu'il fait dans ce texte. Et juste un peu avant, il va encourager à désirer la parole. Et dans cet encouragement, parce qu'il va montrer que cette parole, elle est une parole vivante. Et déjà, si nous nous reportons dans l'expérience que le Seigneur a donnée à de ses serviteurs, tel que Jérémie chapitre 15, le verset 16, lui-même dira, pour encourager à toujours revenir à cette parole ou nous maintenir à vraiment cette proposition de continuellement nous approcher de lui, il dira, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie de mon cœur, la joie et l'allégresse de mon cœur. Mieux encore, dans le psaume 119, les passages 140 à 142, Il est fait mention de ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Il rappelle, je n'oublie point tes ordonnances. Dit ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Donc, vraiment, l'intérêt est fixé, il est suscité de continuellement nous approcher de lui. Tout est là et c'est vraiment en cela que l'Église va grandir, comme il le dit avant, dans le salut auquel il l'a appelé, parce qu'il y a trois choses tout au long de ce livre qui sont très importantes et qui ont encouragé les églises de ce temps qui passaient par des moments difficiles, par des moments d'épreuve. Néanmoins, il peut leur rappeler leur rédemption, il peut leur rappeler leur sanctification, il peut leur rappeler également leur glorification, qui sont des sujets énormément encourageants, parce que Pierre peut rappeler en disant, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc tout ce qu'il peut continuer à nous demander, c'est de demeurer en lui en tant qu'Église ou de nous approcher de lui en tant qu'Église. Et nous avons vu, nous verrons plus tard, tout part de là-bas. C'est pas la seule métaphore qu'on nous donne dans les Écritures. Lorsque nous regardons Éphésiens chapitre 5, nous verrons que l'Église est comparée à une épouse. Lorsque nous regardons aussi 1 Corinthiens chapitre 12, l'Église est comparée à un corps humain. Et lorsque nous regardons en Jean chapitre 15, vraiment l'Église est comparée en ce sens à des branches qui sont reliées à un cep. Donc, ce ne sont pas des... Pour définir l'Église, souvent on cherche des mots, on cherche à chercher un arrière-plan logique à cette explication, mais ces images sont plus parlantes, puisque ici, lui, Pierre, il va choisir de parler de construction et pour vraiment parler de l'Église, du Seigneur et de son Église. Donc c'est pour cela que nous pouvons voir tout de suite une sorte d'introduction dans ce texte, de la façon dont l'apôtre Pierre l'a organisé pour ses destinataires, mais pour nous-mêmes ce matin, puisque c'est au travers de cela que le Seigneur va nous encourager dans ce qu'il est en train de nous proposer ce matin, de pouvoir accepter continuellement de nous approcher de lui à cause, n'est-ce pas, des buts ou les fins pour lesquelles, n'est-ce pas, il a pour nous. Donc, l'apôtre Pierre va montrer qu'en regardant ce passage, le 4A, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Pour continuer au verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale d'angle et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est une sorte d'introduction vraiment dans laquelle cette pierre vivante qui est vraiment le Christ, il veut d'abord présenter cela dans les prophéties, comment cela a été déjà prédit au travers de trois textes, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Il va parler de Ésaïe chapitre 28, verset 16, il va également parler du psaume 118, le verset 22. Il va revenir encore en Ésaïe chapitre 8, le verset 14. Donc, c'est vraiment ces trois prophéties qu'il va mettre en avant. Sachant que Pierre a été quelqu'un qui a été aux côtés du Seigneur, il sait aussi que le Seigneur en a fait référence à ces mêmes passages dans les termes lorsqu'il parlera, n'est-ce pas, de la parabole des vignerons. Et à la suite de cette parabole, le Seigneur, en Matthieu chapitre 21, le verset 42, il va ramener, n'est-ce pas, cet enseignement, cette prophétie que Ésaïe a donnée dans le chapitre 28 pour dire que cette cette pierre, ou si nous voulons, la montagne Sion, la montagne de Sion, en référence à la pierre, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a choisie et elle est précieuse devant lui. Mais ici, la première chose que nous constatons, c'est ce qu'elle a été rejetée. Et dans cette prophétie, tout cela a été déjà prévu qu'elle allait être rejetée. Et lorsque le Seigneur reprenant ce passage, il va démontrer qu'en réalité, ces bâtisseurs ou ces gens qui sont appelés à construire, ils sont appelés à faire un choix de pierre qui vraiment va en accord avec, n'est-ce pas, la maison que nous voulons bâtir, que les pierres qui seront comme des fondements puissent valablement supporter la maison qui sera édifiée. Donc c'est en cela, si nous prenons les chefs en Israël, les chefs religieux, les anciens, les scribes, ils ont ce devoir, n'est-ce pas, le devoir leur incombait de faire le choix de la pierre appropriée pour, n'est-ce pas, le travail de construction spirituelle qu'ils étaient appelés à faire en Israël. Mais ce qui s'est passé, dans ce choix, ils ont délibérément choisi de rejeter la pierre, en réalité, qui était l'importante. Ils ont choisi, n'est-ce pas, de la mettre de côté, pensant que pour eux, ce n'est pas possible. Oui, nous savons de par les prophéties, ils l'ont regardé comme une faible plante. Ils n'ont pas considéré qui il était. Ils ont juste regardé à ce qui frappait les yeux et ils ont estimé que ça ne pouvait pas être possible que celui-là soit, n'est-ce pas, le Messie. Et Pierre connaissait bien des expériences qu'il a vécues lorsque Jésus leur a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Certains disent que tu es Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste venait d'être décapité par Hérode. Mais mieux encore, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un de ces prophètes. Les gens ne le connaissent pas, les gens ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Et il se tourne vers les disciples, il leur demande « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et les disciples, Pierre, parlant à leur nom, rappellent que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre, n'est-ce pas, se rappelant de beaucoup d'autres prophéties, plus tard il les réalisera certainement dans sa vie, lorsque le Saint-Esprit était venu et les a conduits dans toute la vérité, il peut se rappeler lorsque, en 2 Samuel chapitre 7 aussi, Dieu, parlant à David qui voulait lui construire une maison, lui a rappelé que c'est son fils qui va lui bâtir cette maison. Mais il va poursuivre en lui disant que c'est une de tes descendances que je vais placer là éternellement. C'est elle qui me construira une maison. La maison, tout de suite, dès qu'on ouvre l'évangile selon Matthieu, la première référence qu'on verra, Jésus-Christ, fils de David. Celui qui devait vraiment construire cette maison. Il s'agit bien sûr de Jésus. Les gens l'ont rejeté de façon générale, comme nous précise le verset 4. Mais on nous dit plus loin, au-delà de choix que les chefs religieux ont fait, que les scribes ont fait, que les anciens ont fait, que tout le Sanhédrin a fait en somme. L'apôtre Pierre nous dira, en Actes chapitre 4, le verset 11, dans les mêmes termes, qu'en fait, cette pierre, c'est Christ. Et vous l'avez rejeté. Et il parle vraiment de cette élite qui, lorsque nous regardons dans les évangiles, en réalité, n'a d'égard que à leur statut, entre eux. Tout se mesure, tout se dit, tout se fait seulement autour d'eux. Mais pour tout ce qui est en dehors, Israël, le reste des peuples, cela ne les affectait pas beaucoup trop. Et ils étaient tellement imbus d'eux, on sait, tout ce qui les préoccupait pour eux, c'est leur propre justice. Et vous vous souvenez comment l'apôtre Paul, dans le chapitre 9 de Romains, a mis en avant que Israël a cherché la justice par la loi. Et cela l'a conduit justement, n'est-ce pas, à être déchu, parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on peut vraiment atteindre la justice de Dieu. Mais c'est par la foi. Et les païens qui ne la cherchaient pas, Dieu a permis qu'eux, ils la découvrent par la foi au travers de Christ. Donc, vraiment, tous ces passages de prophétie ont eu des explications assez conséquentes dans le Nouveau Testament pour voir que Christ allait être rejeté. Et ce rejet, ici, sous la forme de ses chefs, nous savons que pas eux seuls, même les premiers dépositaires de ces lettres, ces églises-là, ont aussi connu le rejet, n'est-ce pas, de toute cette culture gréco-romaine au milieu de laquelle ils sont. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit de plusieurs autres formes de voir comment les églises sont vraiment... elles sont rejetées, ou du moins comment Christ est rejeté, en tout cas dans tous ces milieux, il n'est pas accepté. Et aujourd'hui, on peut dire même qu'il est rejeté par ceux qui refusent de croire en lui, pour une raison ou pour une autre. Nous, c'est des expériences que nous faisons beaucoup en Afrique, de voir, en tout cas, un jour, quelqu'un revenir, te dire que non, il pense que c'est trop, la pression qu'il subit, il va préférer plutôt s'aligner à ce que la société veut, le fait de rejeter Christ. Donc, le rejet de Christ, c'est vrai, il peut être de façon... expressive, mais il peut être aussi caché au fond du cœur, n'est-ce pas? Juste faire semblant, mais au fond, n'est-ce pas, ne pas le réaliser que vraiment, on s'est approché de lui. On compte sur lui. On vit de lui. Donc, ce sont des choses que l'Église doit continuer à réfléchir et à penser, de voir où est-ce qu'elle en est avec, n'est-ce pas, la pierre vivante. Où est-ce qu'elle en est avec le Christ? On nous l'a présenté qu'il a été rejeté, mais Pierre rappelle à ces églises, mais pour elles, l'honneur leur a été fait, celle de s'approcher de Christ. Il faut, n'est-ce pas, qu'elles voient au travers de la vie. Christ est vivant. Et ce qui a été dit, c'était en Romains chapitre 9, le verset 6. Et l'apôtre Paul peut rappeler aux chrétiens de Rome que, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pierre a une expérience propre par lui-même. Il ne voyait pas le plan de Dieu dans sa vie. Et lorsque le Seigneur Jésus était en train de leur demander « Qui dit-on que je suis ?» et qu'il aurait répondu, Jésus lui dira que c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Mais Jésus lui dit, dans le verset 18 de Matthieu chapitre 16, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Mais lorsqu'il était question de parler de la mort de Jésus, Pierre, qui a bien donné une confession en conformité avec la volonté de Dieu, va se trouver en train de reprendre le Seigneur. Il n'en sera pas ainsi. Il ne sait pas que vraiment le plan de Dieu pour le salut, le plan de Dieu pour un nouveau peuple, le plan de Dieu pour une nouvelle humanité passe par cette mort. Et Pierre ne le voyait pas tout de suite. Et c'est là, nous savons tous ce qui était advenu à Pierre. Il a renié 3 fois le Seigneur. Mais le Seigneur ressuscité, le Seigneur se présente à lui. Et ça a été certainement une expérience dont nous, aujourd'hui, on ne peut pas évaluer, mais c'est sûr qu'elle a beaucoup touché Pierre. Si il a beaucoup pleuré lorsqu'il l'a renié, certainement, lorsqu'il l'a reconnu de nouveau, cela a été de nouveau une autre façon, il a vécu d'autres émotions, n'est-ce pas, dans ce retour avec le Seigneur. Et le voici en train d'encourager des églises qui sont en train de passer par des difficultés en leur rappelant une des choses déjà dans les tout premiers versets. Il rappelle la nouvelle naissance ou la vie éternelle que nous avons au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsqu'il le dit, ici, il peut plus facilement leur rappeler que Christ est vivant. en parlant de ce que l'apôtre Paul disait, la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Et Jean dira, non seulement Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà, n'est-ce pas, des aspects qui sont importants pour nous montrer que Christ qui a dit, je bâtirai mon église, est celui qui est vraiment, non seulement celui qui l'a pensé, il est celui qui est son fondement, mais il est celui aussi qui conduit sa mise en œuvre. Et donc, il nous appartient, lorsque nous regardons maintenant à partir de ce 4b, mais choisie et précieuse devant vous, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le 9 et le 10, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, nous voyons à partir de cette section comment le Seigneur, à côté de ceux-là qui l'ont rejeté, va encourager encore au travers de Pierre les églises en vous approchant. En réalité, si nous regardons dans la forme grecque de ces passages, c'est plus un présent, c'est plus un participe présent. En vous approchant de lui, pour montrer qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une foi, mais que cela souligne une nécessité permanente de nous approcher. Et c'est pas une démarche, n'est-ce pas, qu'on fait une fois, mais en tout cas, ce passage nous rappelle que cela doit se faire continuellement, comme c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui se sont rapprochés de Jésus-Christ. Et nous savons, n'est-ce pas, les termes au travers desquels cela s'est passé. Jésus a montré à plusieurs raisons pourquoi les disciples devaient venir à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, par exemple. Il a dit en Jean chapitre 6, le verset 35, il a rappelé, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il a rappelé pour vraiment motiver les croyants à savoir l'intérêt intrinsèque qu'il y a, n'est-ce pas, de s'approcher de lui. Et l'apôtre Paul disait en Éphésiens 1, verset 3, que Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vraiment, lorsqu'il parle aux croyants, pour leur rappeler tous ces bienfaits, cette expérience, si vous avez goûté qu'il est bon, et que cela se passe au travers de toutes ces façons dont le Seigneur les a attirés à lui, dont le Seigneur les a établis sur lui, ils doivent tout le temps s'en souvenir. Et ils doivent tout le temps, n'est-ce pas, en rester là, parce que c'est là, n'est-ce pas, que le plan du Seigneur pour toute leur vie. Et en tout cas, lorsqu'on parle de cette approche, c'est un terme qui a une connotation de ce qu'on voit au verset 7. Il dit, mais l'honneur est pour vous qui croyez, par le mot qui croyez. Le fait de s'approcher est bien égal, n'est-ce pas, à la foi. Donc, lorsque l'apôtre Pierre est en train de porter ses propos d'encouragement, de cet honneur qui est fait aux disciples de porter le nom de Jésus, de témoigner du nom de Jésus, il dit cela, c'est par la foi. Et la foi, comme on était en train d'expliquer, est quelque chose que nous devons continuellement adhérer. Lorsque nous posons des questions, où est-ce que nous en sommes? Ce matin, en me réveillant, maintenant à mi-journée, où est-ce que Jésus est pour moi? Où est-ce que je suis par rapport à Jésus-Christ? On l'a entendu ce matin. Lorsque une église ne se pose pas ces questions, c'est vrai, les dimensions de sa communion vont être réduites. C'est pour cela, pour réussir ce que l'apôtre Pierre a déjà rappelé, la communion fraternelle, hein, dans le chapitre 1, il leur dit, ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, il dit, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. Pour rappeler ce que Jésus a dit en Jean chapitre 13, 35, mais aussi de tout temps, n'est-ce pas, ce que Jésus leur a donné comme marque de leur vie pour qu'ils soient identifiés, c'est de porter cet amour les uns envers les autres. Et c'est la dimension de cette foi qu'ils portent à vraiment cet amour dans lequel ils vont vivre ensemble, partager ensemble dans le respect, dans l'amour et dans la patience et dans tout ce qui est nécessaire pour que l'Église joue les rôles que nous allons voir un peu plus, n'est-ce pas, sous peu, parce que le Seigneur a des plans, il a des projets pour l'Église. Et si l'Église n'est pas déjà dans cette dynamique, l'apôtre Pierre leur dit, ça ne sera pas possible. Sans moi, Jésus l'a dit en Jean 15, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous sommes véritablement greffés en lui, ou si nous sommes, en parlant comme Paul, comme Pierre est en train de parler, si c'est sur lui que nous construisons, dit certainement que nous aurons une base, un fondement solide. Et le Seigneur l'a décrit en Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27, où il a parlé, n'est-ce pas, de la maison fondée sur le roc. Vous voyez ce que ça fait, si elle est fondée sur le roc, même si des pluies viennent, les vents viennent, tout ce qui peut arriver, n'est-ce pas, ne peuvent rien contre cette maison parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais dans le verset de Matthieu 16, verset 19, Jésus a continué à dire à Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Donc, aucune force sur cette terre, n'est-ce pas, ne peut avoir raison ou triompher sur l'Église. Si l'Église est bâtie sur le roc, rien ne peut lui arriver. Donc, ce sont des éléments qui doivent nous encourager à beaucoup cultiver notre relation avec le Seigneur en tant qu'Église. Je sais que pendant longtemps, aujourd'hui, la tentation, c'est que chacun se débat. Chacun essaie de parler de sa foi. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que c'est toujours de l'Église qu'il est question. Parce que c'est là que l'interaction se passe. Et c'est là aussi que les autres qui sont dehors, ou quand ils ont la possibilité de rentrer, c'est là qu'ils ont la possibilité de regarder un tout petit peu comment les gens se comportent. Et je sais que, en tout cas, ce sont des choses que nous devons prendre en cœur pour pouvoir vraiment triompher pour le Seigneur de tous les petits maux aujourd'hui, sans perturber l'Église, ne doivent pas être une fin en soi. C'est l'Église qui est une fin en soi pour nous en tant que les croyants, parce que c'est le projet de Dieu. Et ce projet, n'est-ce pas, c'est de toute éternité que Dieu l'a planifié et il l'a mis en œuvre par la venue de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a présenté de façon efficace comment ce nouveau peuple sera, ce nouveau peuple de Dieu sera, qu'on appelle l'Église. C'est vrai que ce n'est pas un mot qu'on rencontre beaucoup, surtout dans les Épîtres, mais en tout cas en dehors de l'apôtre Paul qui l'utilise beaucoup plus. Pourtant, c'est un terme qu'on trouve même dans l'Ancien Testament par le mot Kahal, qui est de l'hébreu, mais qui montre une assemblée, un rassemblement devant Dieu ou pour Dieu. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, l'homme de la rue a beaucoup dénaturé, n'est-ce pas, l'idée de l'Église pour présenter peut-être le bâtiment ou certaines choses. Mais en réalité, l'Église fondée sur le Seigneur, voilà, c'est des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est là où nous voyons la connexion ou l'intégration du Seigneur Jésus et de l'Église. Et que chacun qu'il ajoute dans l'Église, qui confesse Jésus-Christ, tout comme Pierre l'a fait, les apôtres l'ont fait, l'Église primitive l'a fait, on dit celui-là, n'est-ce pas, il est ajouté à l'Église. Il contribue à ce que cette construction, ce projet de construction se poursuive. Et cela ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Aujourd'hui, nous devons plutôt nous réjouir de ce que cela représente. Lorsque nous sommes en train de présenter vraiment cette première aspect, ou du moins, c'est même pas d'abord le premier aspect, tout ça, ce sont les choses qui sont autour de notre responsabilité devant le Seigneur. Il nous rappelle d'abord que nous sommes un temple sacré, une maison spirituelle. Et au travers, n'est-ce pas, de cette image, c'est vrai qu'il y a aussi ses ramifications depuis l'Ancien Testament, mais dont nous nous contenterons juste à voir ce qu'il est dit en rapport comment le Seigneur même, dans sa relation ou dans sa conversation avec la femme samaritaine, lui rappelle que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et en Actes chapitre 6 et 7, Étienne a bien vu cela lorsqu'il rappelait aux Juifs, en réalité, Dieu, il n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Non, ils l'ont accusé, qu'il a dit que Jésus a dit, oui, il va détruire ce temple, c'est un fait. Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et il pensait véritablement au temple physique, qui 46 ans après même était toujours en projet, jusqu'à ce que Rome même détruisait le temple. Le temple là n'était jamais fini de façon physique. Mais ce qu'on peut retenir, Jésus parlait de son corps. Et aujourd'hui, le corps de Christ, lorsque dans cette relation, chaque personne qui est adjointe sur ce fondement, il devient automatiquement une personne de mort, morte à vivante, parce que Jésus lui communique la vie. Nous avons vu que c'est lui qui a la vie. Jean chapitre 1, le verset 3-4 nous dit que c'est en lui qu'est la vie. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est lui qui a la vie des hommes. Donc vraiment, nous voyons que c'est lui qui communique cette vie, et même cette vie spirituelle vient de lui. C'est pour cela nous pouvons avec assurance voir vraiment que cette maison spirituelle est construite avec des pierres vivantes qui constituent le peuple de Dieu, qui constituent la maison spirituelle. L'apôtre Paul exhortait Timothée en lui donnant sa recommandation, en sachant comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Donc vraiment, dans cette communion des frères et des sœurs, vraiment, que ce soit le responsable, dans l'exemple qu'il donne dans la personne de Timothée ici, que ce soit les membres, tous, voilà, c'est à Jésus qu'ils sont adjoints pour participer à la vie divine. Donc cela est un immense privilège que nous devons considérer, continuer à considérer, parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous pouvons le dire, car il a rappelé, que ce soit à la fin de son intervention au verset 10, qu'on n'était pas son peuple. Mais maintenant, il nous appelle son peuple parce que nous sommes édifiés sur Jésus-Christ. Et vraiment, on a bien vu aujourd'hui les gens mettre l'accent sur l'embellissement de l'Église. Mais nous voulons rappeler que la gloire et la beauté de l'Église consistent à toujours devenir plus spirituel, toujours plus à ressembler à celui qui l'habite, à savoir Dieu le Père lui-même. Aussi, vraiment, avant de présenter les éléments de notre devoir, nous pouvons encore considérer, au-delà d'avoir fait de nous un temple, il a fait de nous aussi un saint sacerdoce, c'est-à-dire tous ensemble, on a le même accès dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a plus de barrière, comme dans l'Ancien Testament, où seul le souverain sacrificateur avait droit, n'est-ce pas, à présenter des victimes, n'est-ce pas, dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, il nous est dit encore une particularité, qu'il entre une fois par an pour apporter, n'est-ce pas, les victimes, le sang des victimes, des animaux pour le pardon des péchés du peuple. Donc, vraiment, tout en voyant, n'est-ce pas, ces aspects, nous voulons encore rappeler de nous rapprocher de Jésus-Christ. C'est lui, par lui que nous avons cette statue ou cette que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, dans sa maison, où nous sommes appelés à jouer, n'est-ce pas, un rôle important à chaque fois et à tout moment. Donc, s'approcher de Christ, cela est bien parce que ce que nous voyons aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de quitter dans le monde, n'est-ce pas, pour être ajouté à l'Église, mais il faut sortir de soi-même. C'est un des plus grands combats que nous avons, c'est de nous considérer comme morts, comme dit la Bible. Souvent, c'est difficile de le réaliser, mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. La seule façon de sortir de soi-même pour jouir, n'est-ce pas, de cette vocation d'appel à être un sacrificateur ou à être des sacrificateurs dans l'Église, tous ensemble, pour que nous puissions le faire de façon valable. Beaucoup voient dans l'Église le seul endroit où ce n'est pas comme aller à un match de football où 22 personnes, ou peut-être si on ajoute les remplaçants, 4, on va se dire donc à peu près, si c'est 15-15 de chaque, 30 personnes vont transpirer, alors que bon, une foule de 80 000 peut-être, assis dans les gradins, en train d'applaudir, alors qu'elles-mêmes, elles ont besoin de courir, mais elles sont là, participant, applaudissant et ne faisant rien. L'Église ne doit pas être confondue à un tel comportement. L'Église, c'est là où tous les acteurs courent, tous transpirent, tous, n'est-ce pas, recherchent à exercer cette vocation que le Seigneur leur a appelés à exercer. Je sais souvent, on doit continuer à chercher, à ne pas rester oisif dans l'Église, à ne rien faire. Non, le Seigneur nous a honorés. Il dit tous ensemble, nous sommes vraiment des sacrificateurs. Il y a une organisation, bien sûr, dans l'Église, que nous admettons, que nous approuvons du Seigneur même, de son esprit, mais tous ensemble, il veut que nous soyons participants à cette œuvre et qu'il puisse nous encourager par son esprit. Lorsque vous voyez, nous, on voit ça beaucoup en Afrique, parce que quand les gens sont paresseux, en réalité, c'est compliqué de les persuader qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais lorsque nous combattons cet esprit de paresse ou cet esprit, n'est-ce pas, de fainéantisme, mais on continue à se dire, Dieu m'a établi sur le fondement de Christ. Il a fait de moi une pierre vivante et il veut que cette vie, je puisse l'exprimer au milieu de mes frères et mes sœurs. Ils reçoivent de moi, je reçois d'eux, et ensemble aussi nous donnons aux autres. Donc il faut que cette interaction soit véritable, comme Pierre l'exhortait ses églises, mais comme il peut nous exhorter aujourd'hui aussi, parce que vraiment c'est ça l'évidence pour les pierres vives, unies à Christ par la foi. Elles le sont les unes aux autres par amour, elles se servent mutuellement avec soumission et humilité à la place où le maître les a placées. Elles sont des sacrificateurs, elles font cet office, pas comme à l'image de l'Ancien Testament, où c'est carrément une tribu qui a été mise à part pour cela. Maintenant, il n'y a plus d'une tribu, même il n'y a plus, n'est-ce pas, de parler de juifs ou de païens, mais il s'agit de parler de nouveaux peuples qui a été, n'est-ce pas, constitué par Jésus-Christ sur sa personne. Donc c'est de ça que nous devons vraiment nous réjouir, nous encourager en vue de ne pas croiser les mains, n'est-ce pas, dans sa maison. En tout cas, nous sommes avertis, n'est-ce pas, que nous avons la dignité du sacrificateur et que nous sommes tous admis à apporter des sacrifices. Donc, vraiment, tout cela, comme j'ai dit, nous montre le décor dans lequel Pierre s'adresse à ses églises. Mais pour deux choses que nous avons déjà dites. Mais une des premières, n'est-ce pas, la première qui nous engageait simplement à découvrir les victimes spirituelles que nous devons offrir. Parce que, oui, tout ça, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Gloire à Dieu, c'est vraiment un privilège, comme je l'ai dit tantôt. Mais maintenant, pourquoi? Et c'est à cela, pour offrir, n'est-ce pas, des sacrifices et des victimes spirituelles. Si nous continuons à nous approcher de Christ, voilà ce que nous devons faire. C'est vrai que, j'ai dit tantôt, Pierre parlait vraiment de ce que nous pouvons faire les uns et les autres pour nous encourager, parce que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et il le dit par l'amour, par les relations que nous pouvons avoir les uns et les autres. Mais lorsque nous regardons ailleurs dans la Bible, en Romains chapitre 12 par exemple, l'apôtre Paul va nous parler, n'est-ce pas, de ce sacrifice que nous devons de ces victimes dont il est question, les victimes spirituelles que nous devons apporter à Dieu. Il dit d'abord, c'est notre corps, en Romains chapitre 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur, voilà, il a fait de nous ces choses-là que nous avons dites, sont merveilleuses. Mais pourquoi? Il dit, pour que nous puissions, si véritablement nous continuons à nous approcher de Jésus-Christ, nous allons offrir des victimes spirituelles. Elles commencent par notre propre corps que nous donnons, n'est-ce pas? J'ai pas beaucoup compris cela jusqu'au jour où je lisais un des témoignages de Charles Spurgeon, alors qu'il était tout jeune, et que la corbeille passait pour recueillir les offrandes. Il a essayé de s'asseoir lui-même dans la corbeille pour dire qu'il est en train de s'offrir à Dieu. Et pendant longtemps, on ne peut pas comprendre des gestes comme ça, mais aujourd'hui, avec du recul, si nous regardons sa vie, elle a vraiment été consacrée à Dieu. Il n'a réfléchi, il n'a pensé, il n'a vécu que pour Dieu. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Très souvent, nous sommes les produits de ce qui nous remplit. Si véritablement c'est le Seigneur qui nous remplit, vous verrez ce qui sortira de nous, dans nos paroles, dans nos personnes, dans nos agissements, ce serait le Seigneur. Je lisais un des témoignages de Watchman Nee. Il est allé aux États-Unis pour des études et il a fait la rencontre avec le Seigneur. Après beaucoup d'années, il est retourné en Chine. Lorsqu'il est retourné, ses amis, ses parents, en tout cas chacun, viennent pour le saluer et ses amis pour sortir faire un tour avec lui. C'est vrai que ce sont des choses pour lesquelles il a beaucoup prié. Il a beaucoup demandé à Dieu des occasions pour vraiment faire cette œuvre, n'est-ce pas, de l'honorer, de le glorifier par son corps. Ils l'ont invité. À cette occasion, il voulait jouer aux cartes avec lui, au bridge, quelque chose comme ça. Et il a pris l'occasion, il leur a dit que lui, il ne joue plus maintenant aux cartes. Ses amis leur disent, mais pourquoi? Quand tu étais jeune, avant de quitter, pourtant c'était un jeu que tu aimais beaucoup. Il dit, mais plus maintenant. Il dit, mes bras appartiennent à Jésus et je ne ferai pas de mes bras ce qui n'honore pas Jésus. Donc, véritablement, parce que lui aussi, il s'est dit, il s'est donné à Jésus comme une offrande. Maintenant, tout ce qu'il veut faire avec sa main, il faut que cela soit pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut que cela honore Jésus-Christ. Donc, véritablement, tous ensemble, nous sommes appelés à offrir, n'est-ce pas, ces victimes spirituelles à Dieu en offrant notre corps. Si on n'offre pas notre corps, ça va être compliqué. La parole de Dieu est claire. Elle dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. C'est des évidences auxquelles la parole de Dieu nous encourage. S'offrir. Chez moi, on a un musicien, bon, c'est quelqu'un, il est décédé de maintenant. Il a composé un chant qui dit « Personne ne voit l'éloignement de la personne que tu aimes ou les difficultés ou les souffrances pour quelqu'un que tu aimes. » Et je pense, nous, on a un exemple en Jésus-Christ. Rien ne peut nous arrêter de nous offrir à lui. Il s'est offert pour nous. Il l'a fait entièrement. Aujourd'hui, nous attendre à ce que Dieu demande à ce qu'on s'offre nous-mêmes à lui, je pense que c'est juste. Donc, c'est un fait. En Hébreux chapitre 13, il nous est dit aussi là pour nous encourager de glorifier son nom par nos lèvres. Hébreux chapitre 13. 15 et 16, dans tous les deux, il y a des sacrifices dans ce que nous voyons. Dans ça. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire de fruits de lèvres qui confessent son nom. Par notre, ce que nous disons. Hier, j'ai eu un frère qui m'a donné un témoignage. Il vivait avec son fils. C'est une personne âgée. Donc, le fils est là pour l'aider parce que sinon, elle devait être admise dans une maison de repos. Mais le fils est là pour l'aider chaque dimanche, aller à l'église. Et puis, pendant qu'il est là, le fils l'aide pour exprimer. Le fils n'est pas encore parvenu à la foi. Mais en tout cas, le Père, en tout cas, prend son temps en train de louer le Seigneur, puisque le Fils est tout le temps là à cause de ce qu'il dépend entièrement de lui pour sa mobilité. Donc, il continue à louer le Seigneur. Tu es digne d'être connu. Tu es digne. Et ça finit par agacer son fils. On lui a dit de continuer. C'est les signes qu'il y a quelque chose qui a commencé dans sa vie. Si toi, tu es en train d'offrir des victimes spirituelles à Dieu, en confessant son nom, même pour l'habitation, le manger, le boire, même pour ton fils qui t'aide pour X, pour Y, et que ça dérange ton fils, ne t'embête pas, toi. Continue à confesser le nom du Seigneur de toutes ces choses qui sont en train de vivre. Je sais que c'est des choses difficiles aujourd'hui, lorsque nous regardons le présent et même l'avenir. C'est vrai que pour l'Occident, il y a des choses qui sont vraiment des choses arrêtées, des choses pour lesquelles, je n'ai pas besoin peut-être de prier, de chercher la volonté de Dieu, parce que de façon statutaire, ces choses-là sont là. Bien-aimés, C'est merveilleux de voir que la Bible nous encourage de prier même pour ce que nous pouvons faire. Parce que ce sont des façons de confesser, de glorifier le nom de Dieu au travers de ces choses-là. On va les trouver banales, on va les trouver comme si c'est pas « j'ai déjà ça, je ferai pas ça ». Non, l'Église doit offrir des victimes spirituelles à Dieu. Et il est dit, par les fruits de nos lèvres, confessons son nom. Donc, ne nous arrêtons pas. Il est dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car ça a de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous savez, et quand cela est accompagné avec vraiment une bonne disposition, L'apôtre Paul dit que c'est vraiment à la gloire de Dieu. Ces choses-là ne doivent pas être confondues avec la justice qu'Israël cherchait. Ce n'est pas des choses qui vont nous donner le salut. Ces choses-là, nous, c'est notre vocation. C'est à ça que Dieu nous a appelés, à les exercer par vraiment sa grâce. Donc, ne voyons pas. On parle de la prière, par exemple, qui est aussi, n'est-ce pas, qu'elle soit d'intercession, qu'elle soit de requête, n'est-ce pas, et on doit la mettre, n'est-ce pas, dans ces offrandes ou ces victimes spirituelles que nous présentons à Dieu, parce que elles sont la volonté de Dieu pour nous. Elles sont l'expression de la foi que nous ne comptons que sur Dieu lorsque nous nous exerçons à lui confier tout ce qui nous entoure. Donc, bien-aimés, nous sommes nous-mêmes tenus, n'est-ce pas, par ce but d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Et nous avons essayé par ces deux passages, mais il y en a beaucoup plus encore dans la parole. En lisant, nous voulons mieux voir, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons les dimanches. C'est une très bonne chose, mais ça ne s'arrête pas à l'église. La vocation n'est pas seulement occasionnelle dans un lieu. Non, c'est vraiment, elle engage toute notre personne du moment où on s'est offert à Dieu. Les autres choses aussi, on peut les lui offrir de façon spirituelle. Nous avons dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui lui rendent un culte le rendent en esprit et en vérité. Pour le dernier point, nous avons dit de continuellement nous approcher de lui pour annoncer les bienfaits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est un fait aussi, voilà, que le Seigneur met devant nous la mission, l'évangélisation, le fait de porter le salut. Et quelqu'un a décrit l'Église comme un peuple pèlerin de Dieu, et plusieurs fois, l'apôtre Pierre l'a mentionné, des étrangers, en tout cas, il les a qualifiés d'étrangers, il les a qualifiés de pèlerins, en tout cas de pas mal de mots, mais il dit vraiment c'est la condition de l'Église. Elle est en marche, se hâtant vers les extrémités de la terre pour supplier les hommes de se réconcilier avec Dieu. Ou juste pour rappeler, n'est-ce pas, les termes de ce que l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 5, où vraiment il a fait de ces choses-là une attitude, une conduite, et qui doit être aussi la conduite de l'Église aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, à partir de 18, il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. » Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, n'est-ce pas, dans ce second but qui nous concerne, il s'agit d'annoncer les hauts bienfaits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il le dit assez bien. Nous sommes en marche vers notre patrie, vers la gloire céleste. Mais en attendant, nous hâtons vers les extrémités de la terre pour supplier tous les hommes de se réconcilier avec Dieu. C'est notre vocation. C'est nous tous qui sommes dans cette dynamique. C'est nous tous qui faisons cela. C'est vrai, il ne s'agit pas de nous tous de voyager, d'aller à gauche, à droite, mais le fait de marcher. Je pense qu'on est perpétuellement en marche. En tout cas, on nous dit de saisir toutes les occasions pour apprendre Christ. L'Église, il a, c'est vrai, développé pas mal d'enseignements pour réaliser qu'on est une maison spirituelle pour Dieu. Et nous avons des devoirs et nous nous donnons maintenant les moyens pour atteindre ces devoirs. Et c'est parmi ces devoirs, il y a le fait d'annoncer, de proclamer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. L'apôtre Pierre à 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 17, il a écrit dans ces passages quelque chose de merveilleux. Parce qu'il s'est vu d'abord le premier parmi les pécheurs. Donc pour lui, il n'y a aucune... il n'a pas à s'élever, il n'a pas à se vertuer, il n'a pas à s'enorgueillir, mais plutôt à voir véritablement qu'il est un pécheur qui a reçu grâce et maintenant qui a le devoir aussi d'annoncer aux autres pécheurs en vue qu'ils trouvent grâce aussi devant Dieu pour être sauvés. Il a trouvé ça merveilleux. Je ne sais pas en tant qu'Église si nous trouvons ça aussi merveilleux. Nous qui sommes des pécheurs, que le Seigneur nous rachète, que nous lui appartenons, que nous soyons un peuple qui lui appartienne. Nous sommes une maison spirituelle qu'il est en train d'ériger. Et il nous dit, voilà, une de nos vocations, c'est d'aller d'annoncer ses hauts bienfaits, ce qu'il a fait au monde. On aime beaucoup citer Jean 3,16, mais à des occasions particulières de Noël, alors que ça doit être quelque chose auquel nous pensons tous les jours, chaque instant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout comme nous aimons Dieu, nous aimons aussi notre prochain. Nous ne voulons pas, au lieu que lui, vraiment, qu'il n'ait pas la possibilité de connaître la destinée de l'homme, ce n'est pas simplement le tombeau, ce n'est pas simplement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle ne fait que commencer à la mort. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? Cela doit nous habiter afin que nous puissions être des bonnes sentinelles. Des sentinelles qui avisent les autres qu'il y aura un jugement, peu importe. Il ne s'agit pas de polémique, il ne s'agit pas de condamnation de la personne. Il s'agit de la mettre au fait des choses, tout comme Dieu le veut. Il dit vraiment de faire cette œuvre, d'être des ambassadeurs de réconciliation. Donc que cela puisse nous habiter en tant qu'Église et que le Seigneur nous accorde des moyens afin que ces choses-là deviennent vraies dans notre vie d'Église. Que nous ayons des choses ensemble, que nous mettons ensemble, en commun. N'est-ce pas? Tout comme il est dit, il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est sur lui, avec lui, que nous mettons tout et que nous pouvons partager ces choses-là. Que ce soit ces deux choses-là qu'il nous demande à offrir, n'est-ce pas, des victimes spirituelles, tout comme pour annoncer aussi l'Évangile, qu'il puisse nous aider afin qu'il nous trouve en ces choses-là. On va baisser la tête et on va prier quelques instants afin que, en tant qu'Église, que le Seigneur nous rende sensibles à nous offrir nous-mêmes à lui comme des sacrifices agréables à lui, mais également à offrir les fruits de nos lèvres en confessant son nom. De continuer à appliquer, à exercer la libéralité, la bienfaisance comme c'est sa volonté, mais aussi d'avoir à cœur en tant qu'Église annoncer Christ aux autres. Seigneur, nous voulons te remercier et te donner toute la gloire. Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donné de lire ce matin, mais mieux encore, Seigneur, de donner quelques pistes de réflexion. Merci de nous aider, Seigneur, avec cette interpellation. Oui, c'est là que tu mets devant nous, de continuellement nous approcher de Jésus-Christ. Merci parce que par lui, tu as fait de nous un temple saint. Merci parce que par lui, tu nous as fait des sacrificateurs saints. Merci, notre Père, notre Dieu. Nous n'avons pas évoqué le fait qu'il ait fait de nous une race choisie, un sacerdoce royal, un peuple élu, un peuple acquis. Merci, notre Père, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces multiples privilèges que tu as pour nous. Merci maintenant de te dire, nous voici, Seigneur. Et nous voulons offrir en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, des services spirituels. Nous venons annoncer l'évangile et nous demandons ton aide pour tout cela. Nous te louons, nous te bénissons pour les enfants qui entrent en congé ou en vacances, Seigneur. Merci de les soutenir et de les aider pendant ce temps. Merci de leur donner de pleinement, Seigneur, Seigneur, recueillir aussi ta parole au travers des occasions où ils sont avec les parents dans l'église. Merci, notre Père, notre Dieu. Nous continuons à te remercier aussi pour tout ce que tu as fait à Zania et à Andrei. Merci pour tes bienfaits envers eux. Merci, Père. Merci de conduire notre fin de journée dans cette communion fraternelle en pensant à notre Dieu. C'est là aussi une des bénédictions que tu nous as accordées et d'en jouir, afin que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, amen.